Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le chasseur me tuera, lapin en tricard, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Rachel est devenue belle-mère avant d'avoir ses deux garçons. Deux grossesses faciles durant lesquelles tout s'est parfaitement déroulé. Rachel a passé tous les tests qui détectent la trisomie 21 haut la main. Il n'y avait donc aucune inquiétude à avoir. Et pourtant, lorsqu'elle a accouché de son deuxième bébé, elle a tout de suite compris qu'il était porteur d'un chromosome en plus. Dans cet épisode, Rachel nous raconte la découverte de la trisomie 21 de son garçon, tout le bouleversement que cela implique au quotidien, et comment cela les a amenés, son mari et elle, à créer l'association Chromosome d'amour en plus. Car finalement, il ne s'agit que de cela pour cette famille. De l'amour, beaucoup d'amour. Bonne écoute. Bonjour Rachel, merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Bonjour, je suis enchantée de pouvoir témoigner, avec plaisir.
Alors tu es la belle-maman d'une petite fille et maman de deux petits garçons.
C'est ça.
Quel âge ont-ils ?
Alors Léane, donc ma belle-fille issue d'une première union d'Alexandre, a 8 ans maintenant, depuis le mois d'août. Antonin, 5 ans, mon premier garçon, et mon petit deuxième, donc Nathanaël, a 3 ans.
Est-ce que tu t'es vite adaptée justement à ce rôle de belle-maman ?
Oui, j'ai toujours voulu des enfants. J'ai rencontré Alexandre sur le tard, donc alors c'était pas prévu que je me mette avec quelqu'un qui avait déjà un enfant. C'est voilà, le pur hasard, on s'est rencontrés, on s'est aimés. Il y avait cette petite fille qui était toute jeune au moment où on s'est rencontrés, puisqu'elle avait 18 mois, elle avait même pas 2 ans. Donc non, ça a été une évidence. Enfin, ça s'est fait tout naturellement. Après, on l'a pas si souvent, mais quand on l'a, on est ravis de pouvoir partager des moments avec elle. Et puis, je pense qu'elle, elle s'est vite adaptée à moi, puisqu'elle était toute petite. Donc finalement... elle m'a quasiment toujours connue.
Et alors, tu disais, t'as toujours voulu être maman ?
Oui, toujours. Ça a toujours été dans mes rêves de petite fille d'être maman. Alors, pourtant, j'étais un garçon manqué. Ça se voit pas comme ça, mais j'étais un garçon manqué. Et j'ai toujours voulu être maman. Et c'était une souffrance parce que j'ai rencontré, comme je te disais, Alexandre assez tard. J'ai eu des copains, bien entendu. Hein. J'en ai eu un très jeune. J'ai été en couple, j'avais 15 ans. Donc, je suis restée 5 ans avec le même garçon. Mais à ce moment-là... lui voulait des enfants, mais j'étais beaucoup trop jeune pour y penser. J'ai voulu faire des études, mais c'était toujours quelque chose que j'avais à l'esprit. J'ai toujours voulu être maman.
Et tu te posais des questions, du coup, avant de rencontrer...
Avant de rencontrer Alex, je me disais, mais est-ce que je vais finir par trouver le garçon idéal ? Quand j'ai rencontré Alexandre, attends, écoute, c'est pas compliqué... J'ai 38 ans, je l'ai rencontré, j'en avais 29-30. Donc c'est quand même plutôt tard par rapport à mes copines, etc., pour rencontrer celui avec qui finalement tu fais des enfants.
Et à quel moment est venu le sujet de la maternité dans votre couple ?
Très vite. Il avait déjà Léane, donc lui pour le coup était déjà papa, mais... et j'ai pu constater que c'était un bon papa. Donc c'était aussi important pour moi de voir ça, parce que ça m'a tout de suite, je me suis tout de suite dit, il est impliqué dans la vie de la petite, même s'ils sont séparés avec sa maman, et donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal si nous on a des enfants. Et on a eu Antonin très rapidement, puisqu'on l'a eu, ça faisait un an, je suis tombée enceinte, ça faisait un peu plus d'un an qu'on était ensemble.
Et alors comment s'est passée cette première grossesse ?
Très bien, parfaite. Une grossesse au top, j'ai été malade les premiers mois, les fameuses nausées, etc. Mais j'étais tellement contente que ça s'est super bien passé. Le seul petit bémol sur cette grossesse, c'est la fin, puisque j'ai appris que j'aurais une césarienne programmée et pas un accouchement naturel.
Ah, pour une raison particulière ?
Oui, parce que quand j'étais plus jeune, je souffre d'une endométriose, mais une forme d'endométriose, c'est une adénomyose, donc c'est pas la plus sévère des formes, au contraire, mais j'ai des fibromes réguliers, j'en ai eu un très jeune. Enfin, quand je dis très jeune, j'avais une vingtaine d'années, et très gros, qu'on a dû me retirer par célioscopie. Sauf qu'à l'époque, on m'a pas. J'avais posé la question de savoir si j'aurais des complications, si je pourrais avoir des enfants, etc. Donc on m'a dit, ouais, tu auras des enfants, il n'y aura pas de souci. Mais on m'a pas expliqué que j'aurais une grosse cicatrice sur l'utérus qui potentiellement pourrait m'empêcher d'accoucher naturellement. Et ça, je l'ai appris pendant ma grossesse d'Antonin, donc ma première grossesse. Et sur la fin, toute fin, on m'a confirmé que ce serait une césarienne programmée. Je l'ai su une semaine avant d'avoir ma césarienne, en fait, parce qu'on espérait jusqu'au bout que ça pourrait être un accouchement naturel. Mais il y a eu un collège de gynécologues qui s'est réuni quand même pour discuter de mon cas. Ayant récupéré tardivement mon compte-rendu d'opération, de ma opération quand j'étais jeune, ils ont vu la taille de la cicatrice et m'ont dit qu'ils ne prendraient aucun risque et qu'il ne fallait pas que la cicatrice lâche avec les contractions. Donc, il fallait que j'aie une césarienne programmée. Et donc, j'ai fait tous les cours d'accouchement, sans pouvoir finalement accoucher naturellement.
Et donc, comment tu l'as gérée émotionnellement ? C'était compliqué ?
C'était compliqué, surtout une semaine avant, parce que j'étais psychologiquement pas prête. Mais en même temps, j'avais tellement hâte de le rencontrer, c'était mon premier bébé, donc j'étais contente aussi de me dire, en plus ça va être encadré, comme c'est une première grossesse, un premier accouchement, finalement c'est bien d'être encadré aussi, mais un peu frustrée de ne pas pouvoir donner naissance naturellement, on va dire, à mon enfant. Mais après, la césarienne, c'est aussi une expérience... Alors, j'ai pas vécu un accouchement naturel, donc je peux pas comparer, mais c'est aussi une expérience quand même formidable. En plus, Alex a pu y assister, finalement, on l'a fait tous les deux.
Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman ?
Complètement. Étonnamment, oui. J'aurais pas pensé. Alors, je dis pas que ça n'a pas été difficile, parce que tout comme toutes les mamans, il y a des moments où on se dit, mais c'est pas possible, quand est-ce que je vais dormir ? Quand est-ce que je vais pouvoir me reposer ? Mais je me suis tout de suite sentie à l'aise. J'ai tout de suite été inondée d'amour. Je pensais pas que c'était possible d'aimer à ce point. Parce que c'est vrai qu'il y a que quand on le vit, finalement, qu'on se rend compte que c'est un amour inconditionnel dès les toutes premières minutes. Qu'il y a un échange qui se fait. Je l'ai allaitée, donc c'était aussi assez particulier parce que c'était pas dans mes projets à l'origine. J'étais pas du tout partie pour allaiter.
Ah oui ?
Je m'étais dit, ah non, jamais, je pourrais pas faire ça, etc. Je m'en sentais pas capable. Et puis finalement, c'est venu très naturellement. Donc j'ai allaité Antonin. Ça a été un petit peu compliqué pour Antonin. Mais finalement, ça s'est bien passé. Alors, c'était un tout petit poids, donc on avait un petit peu peur au début, à la maternité, etc. Mais très bien. Ça s'est très bien passé.
Et alors, quelques années plus tard, vous décidez de faire un deuxième enfant.
Oui.
Comment s'est passée cette deuxième grossesse ?
Alors, la deuxième grossesse, c'était une surprise.
D'accord.
C'était pas... En fait, on voulait un deuxième enfant, donc là-dessus, il n'y avait pas de souci. Simplement, je fais vite des enfants, comme pour Antonin. C'est arrivé très vite. En fait, on pensait que ce serait plus long, parce qu'il y avait eu la première, parce que j'avais repris la pilule, etc. Et finalement, j'ai arrêté la pilule et je suis tombée enceinte aussitôt, quasiment. Donc, quand on m'a annoncé que j'étais enceinte de Nathaniel, déjà, c'était une surprise, puisque je ne m'attendais pas à l'avoir si tôt. La grossesse, en elle-même, elle s'est bien passée. Alors, j'ai été très malade au début, plus qu'Antonin. Très, très malade. Les nausées, etc., ont duré bien 5 mois facile. Vomissements, nausées. J'ai même maigri au début de ma grossesse, ce qui est fou. Et après, j'ai juste eu une autre inquiétude, c'est qu'à un moment donné, lors de la deuxième échographie, on m'a annoncé qu'il avait peut-être un problème cardiaque parce qu'il a eu un petit truc sur le cœur. Donc, encore une fois, ils se sont réunis en collège, sage-femme, médecin, etc., à la maternité. Et là, ils se sont dit, non, c'est rien en fait, c'est juste l'échographie qui a montré une tache, il n'y a rien. Donc tout allait bien. Et puis sur la dernière échographie, on m'a dit « Ah, finalement, il y a peut-être un problème cardiaque quand même parce qu'il y a une petite cavité de son cœur qui n'est pas refermée. Donc vous allez voir un cardiopédiatre qui va faire une échographie spécifique dans le ventre pour vérifier si le bébé a un problème cardiaque. Ça a été confirmé, donc c'était pas un gros problème. Le cardiopédiatre est très, très rassurant en nous disant que c'est quelque chose souvent qui se refermait soit avant la naissance, soit dans les suites de la naissance, donc dans les premières semaines. Et donc on le reverrait par principe avec notre enfant, mais sans inquiétude. Donc ils avaient réussi à me rassurer, même si quand même ça inquiète un petit peu de savoir que potentiellement ton bébé a un problème de santé. Mais je n'en ai pas su plus.
Et vous avez fait tous les tests de trisomie
Tous les tests, comme pour son frère. J'ai fait la prise de sang qui s'appelle le tri-test, je crois. Et ben là, rien. Enfin, un risque sur 8000, donc 7961 pour être précise, puisque je les ai reprises, hein, ces prises de sang. J'étais même mieux que pour son frère. J'avais pas encore 35 ans.
Parce que les risques sont
accrus après, donc ce qui peut faire augmenter du coup le risque sur les prises de sang. Donc moi, ce qui explique que j'avais un risque très peu élevé, c'est que un, j'étais pas dans l'âge, j'avais pas mes marqueurs sériques finalement étaient bons, il y avait pas d'antécédents, les mesures à l'échographie étaient très bonnes, elles étaient même meilleures que pour son frère. Donc finalement, aucune inquiétude à ce niveau-là. Le seul truc, je te dis, c'était le cœur qui nous inquiétait parce que potentiellement, il avait un petit souci.
Et donc, tu accouches d'un deuxième petit garçon.
J'accouche d'un deuxième petit garçon, donc par césarienne, qui était programmée aussi. Mais comme je ne fais pas les choses comme tout le monde, j'ai accouché avant puisque en fait, j'ai ressenti des contractions le lundi alors que ma césarienne était programmée pour le vendredi.
Ah oui.
J'ai ressenti les contractions, je suis à la maternité. On m'a renvoyée chez moi, mais non, ça va aller. Ça va tenir jusqu'à vendredi. Le mercredi, j'y suis retournée. Et là, on m'a dit, ah, on y va, tout de suite, c'est maintenant. Parce que là, il est en train de s'engager. Il faut absolument pas qu'il s'engage pour la césarienne. C'est trop risqué, donc on y va. Donc finalement, j'ai accouché d'une césarienne, cette fois en urgence. Mais voilà, un deuxième petit garçon. Donc j'étais préparée à avoir un petit garçon. On avait su le sexe bien, bien longtemps avant. Par contre, j'étais pas préparée à voir qu'il avait une trisomie 21.
Et donc ça, tu l'as su le jour où tu
l'as accouché ? Je l'ai su tout de suite. Je l'ai su tout de suite. J'ai essayé de me convaincre que j'avais des hallucinations. Alexandre, de la même manière, s'est essayé de se convaincre de la même chose, que c'était le stress, l'angoisse.
Mais parce que c'est quoi ? On te l'a posé ? On pourrait...
Alors oui, quand t'as une césarienne... Alors Alexandre était encore avec moi, même si c'était en urgence. On me l'a sorti et on me le présente en fait. On me le pose pas vraiment parce qu'il y a tout le champ, etc. Mais on me le présente pour que je l'embrasse. Là, je le vois et tout de suite, je vois qu'il ressemble pas du tout à son frère. Enfin... Il avait vraiment les yeux en amande et très, très joufflu, alors que son frère était tout fin et très mince, même limite maigre. Hein. Antonin était très mince et Nathanaël, tout l'inverse. Un bon gros bébé. Alors j'étais super contente parce que je me disais enfin j'ai un bébé bien portant, l'image du bébé. Et en même temps, j'ai tout de suite vu ses yeux en amande et je me suis dit il y a un problème. Pour autant, je ne l'ai pas fait remarquer.
Ah oui.
J'ai voulu profiter du moment. Même si à l'intérieur c'était très compliqué. Mais voilà, et Alex s'est dit la même chose, mais lui pour le coup il a été aux soins. Moi on m'a mis en salle de réveil. Et puis en salle de réveil ils sont venus tous les deux. Enfin l'infirmière les a emmenés tous les deux pour qu'on fasse le premier pot à pot et puis la mise au sein. Et étonnamment elle nous a laissé, alors que je me rappelle que pour Antonin une infirmière était restée avec nous. Elle nous a laissé. Et j'ai regardé Alexandre, je lui ai dit il y a un problème. Il a un problème. Et Alexandre m'a dit « Je pense aussi ». Et je l'ai reçu et je pense qu'il a une trisomie 21. Et il m'a dit « Je pense aussi ».
Ah oui.
C'est inexplicable. Pourquoi j'ai su, je suis pas spécialement... Je n'avais pas spécialement de connaissances sur la trisomie 21, mais je l'ai su tout de suite.
Mais les médecins n'avaient rien dit à ce moment-là.
Non. J'ai trouvé ça très bien. Parce qu'avec le recul, je préfère qu'ils ne me l'aient pas dit. Parce que je m'en doutais, premièrement. Et puis, deuxièmement, même si je m'en étais pas doutée, ça m'a permis quand même d'avoir cette rencontre avec Nathanaël, qui était finalement une rencontre avec n'importe quel bébé. J'ai pu profiter de lui. Et voilà. Et après, avec Alexandre, on s'est dit, mais non, On est fatigué parce que comme on avait le premier, évidemment, la grossesse, le premier à gérer, c'était compliqué. On s'est dit, voilà, on est fatigué, on a besoin de repos, on est stressé, c'était pas prévu comme ça. La césarienne est programmée, on est un petit peu chamboulé, on s'inquiète pour rien.
Et alors, à quel moment on vous a...
Après, lui, il a dû rentrer à la maison pour s'occuper de notre aîné. Moi, je suis restée toute seule à la maternité avec Nathanaël, donc j'ai pas arrêté forcément de l'admirer sous tous les plans pour voir si je me trompais ou pas. On a fait des recherches tous les deux, chacun de notre côté. Maintenant, avec la magie d'Internet, c'est bien et pas bien, mais on a les téléphones, on est voilà. Donc j'ai cherché, j'ai regardé un petit peu toutes les caractéristiques de la trisomie 21. Je me suis rendu compte qu'il en avait quand même pas mal. Et puis les infirmières au Belvédère, enfin les sages-femmes m'ont interrogé la nuit suivant la naissance de Nathanaël en me disant « Mais est-ce que vous trouvez qu'il ressemble à son frère ?» Et là, j'ai répondu du tac au tac que je me vois encore le faire. « Ah non, pas du tout. » Et je me suis dit « Mais c'est bizarre qu'elle me pose cette question-là. » Elle aussi, elle se doute de quelque chose. Et pas manqué, le lendemain, la pédiatre est venue pour faire la visite de contrôle. On tournait comme des lions en cage, pour être honnête, hein, dans la pièce. Alexandre faisait les 100 pas. Et donc, du coup, elle a tout arrêté. Elle était en train de sculpter, elle a tout arrêté, elle nous a rien fait. Il y a quelque chose que vous voulez me dire. Et donc, on lui a tous les deux dit, on pense qu'il y a un problème avec Nathanaël. Et elle nous a dit, je pense aussi qu'il y a un problème. C'est pas réellement un problème, on pense qu'il a peut-être quelque chose. Et on veut vérifier ça, si vous nous y autorisez à faire une prise de sang.
Et elle t'a dit qu'elle s'orientait vers la trisomie.
La trisomie 21. Une trisomie. Probablement la 21, puisqu'il y a plusieurs trisomies possibles. Et puis après, il y a plusieurs formes de trisomie 21. Donc elle ne s'est pas prononcée là-dessus. Elle nous a juste expliqué un petit peu comment ça se passait. Elle nous a dit qu'il allait falloir faire une prise de sang et attendre les résultats, qui étaient très très longs.
Ça a pris combien de temps ?
J'ai accouché le mercredi. On a eu les résultats le samedi matin.
Et alors, comment
elle est revenue exprès alors qu'elle n'était pas de garde pour nous l'annoncer. Bah là, c'est tout horrible parce qu'on l'attendait, on savait qu'on allait avoir les résultats, on essayait de se dire mais non, ça va aller, on va nous annoncer une bonne nouvelle, il n'y a rien, etc. Et puis, quand elle est venue, elle nous a confirmé qu'il y avait une trisomie 21. C'est un petit peu, même si on s'en doutait, c'est douloureux parce qu'on veut le meilleur pour nos enfants et qu'on se dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait. En tant que maman, avec les hormones, on culpabilise tout de suite, on se dit c'est de ma faute, c'était dans mon ventre, c'est de ma faute, j'ai fait quelque chose. Et puis il faut l'annoncer aux proches, parce qu'on avait gardé cet accouchement un petit peu secret, se doutant qu'il y avait un petit problème. Ah oui. On a juste dit que j'étais rentrée à la maternité pour rassurer les proches qui n'avaient pas trop de nouvelles. Ma maman était elle en vacances, donc voilà, mais on n'a pas dit qu'il y avait un souci. On s'est bien gardé de faire des photos parce qu'on trouvait que ça se voyait. On en a fait, mais on les a pas forcément envoyées ou on les envoyait de manière à ce que ça se voit pas trop. Voilà, c'était très particulier. Et puis finalement, quand on l'a annoncé, alors c'est pas moi qui l'ai annoncé, c'est Alexandre que je sentais pas. J'étais trop dans la peine. C'était très difficile les premiers jours. Et c'est Alexandre qui a dû l'annoncer à tous nos proches par téléphone. Et donc lui aussi, c'était très dur pour lui. Il a même tapé dans un mur de nerfs. Ce qui fait qu'à un moment donné, je l'ai vu revenir dans la chambre avec un poche de glace parce que les infirmières l'avaient vu. Donc pour ça, ils ont été très bien parce qu'ils nous ont vraiment aidés. On a vraiment été soutenus dans tout ça. Mais quand même, c'était difficile. Et puis, j'ai eu cette phrase pour dédramatiser, parce que mine de rien, j'étais quand même contente d'être maman, parce qu'il faut pas oublier que, en fait, c'est très compliqué, parce que c'est un partage de sentiments, on est content, mais en même temps malheureux, on se dit que ça va aller, puis on se demande ce qui va se passer pour l'avenir, pour lui, pour son frère, c'est un petit peu le bébé rêvé dont on doit faire le deuil, parce qu'on ne pensait pas à ça, quand on pensait avoir un deuxième enfant. Et j'ai eu cette phrase vers Alexandre en disant il y a un chromosome en plus, donc on s'est trop aimé. Donc c'est un chromosome d'amour en plus. Et ce qui est resté, puisque c'est le nom de la page et de l'association. Et je l'ai annoncé comme ça à mes amis, en fait. N'ayant pas la force de les appeler un par un, j'ai envoyé un message groupé où j'ai dit Nathanaël est né, il va bien, mais on a eu mis un peu de temps à vous l'annoncer parce qu'il a un chromosome d'amour en plus, il est porteur de trisomie 21, ça n'avait pas été détecté. Donc merci de respecter notre silence et on reviendra vers vous quand on sera prêt.
Donc, quelles ont été les réactions, justement, de l'entourage?
J'ai eu plein de messages pour me dire, mais c'est trop mignon ce que tu dis, un chromosome d'amour en plus. Mmh. Voilà, c'est le truc qui est resté, finalement, de mon message. C'est vraiment cette phrase qui est restée. Et bah, j'ai eu beaucoup de messages d'affection, hein, en disant que les gens étaient là pour nous, que bah, ils étaient tristes pour nous quand même, mais que ça, tout irait bien. Enfin, voilà, les messages qu'on peut recevoir dans tel cas. Certains n'ont pas répondu. Ne sachant pas quoi dire, je pense que c'est aussi difficile hein, quand on se met dans l'autre situation d'avoir ce type de message. Et puis j'avais beaucoup peur pour ma famille parce que je savais que c'était difficile. Ma maman, on est très proches et je me suis dit qu'elle allait en souffrir et je me suis pas trompée, c'était difficile pour elle aussi.
Ah oui.
Mmh. Ouais, parce que j'ai eu un papa en situation de handicap. Mon papa a eu un accident cérébral quand j'avais 10 ans. Donc le handicap on connaissait, c'était pas le même handicap, mais pour le coup ça a quand même fait partie de ma vie quasiment tout le temps. Donc du coup pour ma maman c'était un petit peu dur aussi de savoir que bah rebelote, j'étais repartie dans une spirale avec des problèmes liés au handicap à gérer.
Que t'ont dit les médecins par rapport à tout ça, le fait qu'ils n'aient rien vu aux échos, est-ce que toi tu leur en as voulu?
Alors. Je suis juriste, donc c'est vrai que ce côté-là, ça peut paraître étonnant pour la majorité des gens. Il y en a même des collègues à moi qui sont juristes sont étonnés, mais non, j'en ai pas voulu aux médecins parce que je sais que ce sont des statistiques. Je l'ai toujours su, mais c'est quelque chose qu'on ne se dit pas quand on est enceinte, et fort heureusement, parce que quand on est enceinte, on ne fait pas des bébés pour se dire ils vont avoir un problème génétique, un problème de santé, sinon on ne ferait rien, clairement. Et quand on est en grossesse, je pense qu'on est dans notre bulle et qu'on se dit on va avoir un bébé sans penser que potentiellement les tests que l'on fait ne sont que des statistiques. Pour autant, je l'ai toujours su, puisqu'en plus je suis juriste et ma spécialité c'est le droit médical. Donc je ne peux pas en vouloir aux médecins, dans la mesure où bah, Nathanaël est passé entre les mailles des statistiques et c'est comme ça. Quelque part, je préfère ne pas l'avoir su, parce que si je l'avais su, il aurait fallu que je me pose une certaine question que franchement, je trouve très dure à se poser en tant que maman, pour en avoir côtoyé des mamans qui se sont posées cette question-là. C'est très douloureux et au moins je n'ai pas eu à me prononcer sur ça et à faire un choix qui aurait pu être très douloureux tant pour moi que pour Alexandre, que pour la famille. Et voilà, c'est Nathanaël, c'est un tsunami dans nos vies, mais finalement c'est une bonne chose. Donc je préfère ne pas l'avoir su.
Qu'est-ce que tu fais? Enfin, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des démarches?
Alors oui, il y a tout un tas de démarches. C'était très difficile parce que bah, quand on vient d'accoucher, on est un petit peu fatigué. Mmh. On avait l'autre aîné à gérer qui n'était pas si vieux que ça puisqu'il avait 27 mois. Plus Léane. Donc difficile de tout gérer. Mais en fait, en plus, j'ai accouché au mois de juin, donc tout est fermé, clairement. Les démarches à faire, bah, il faut faire un dossier au niveau de la sécurité sociale pour la prise en charge à 100%. Donc une prise en charge en 100% pour Nathanaël, qui puisse bénéficier des soins. Il y a tout un tas d'examens à peine sortis de la maternité à réaliser. Des radios, des échos pour vérifier qu'il n'a pas de maladie associée à sa trisomie 21, tout comme les problèmes cardiaques, qui d'ailleurs n'a pas finalement. Il y a un millier de démarches à faire, contacter un centre pour qu'il puisse bénéficier de séances d'orthophonie, de psychomotricité. Un centre qui est pour nous à Rouen, à CESAD, filié trisomie 21, qu'on a eu beaucoup de mal à joindre puisque c'est fermé pendant les vacances scolaires. On cherche sur internet, on essaye de se renseigner, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour lui, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité. On nous parle beaucoup de prise en charge précoce. Donc les premières semaines, les premiers mois, c'est très dur parce qu'on se dit, faut qu'on se dépêche, faut qu'on fasse. C'est une prise en charge précoce, c'est important. Sauf qu'en fait, on se met la rate au courbouillon parce que finalement, la prise en charge précoce, c'est bien, mais c'est bien au bout de 4-5 mois. Mmh. Tout bébé, ça reste un bébé, comme un autre. Donc on peut profiter de son bébé, comme n'importe quel enfant. Il n'y a pas grande différence à part les rendez-vous médicaux et les démarches administratives. faire un dossier MDPH, pour qu'il soit reconnu en situation de handicap, ce qui n'est pas toujours facile à admettre dans les premiers jours de vie, les premières semaines de vie, de se dire, en fait, la trisomie 21, c'est un handicap. Et mon fils est handicapé à 80% aux yeux de la société, de la loi. Et donc, on doit faire toutes ces démarches-là, parce qu'il ne faut pas oublier que il a des soins à faire et que tous ces soins, c'est cher. Et que si on ne fait pas ces démarches-là, tout reste à notre charge.
Et vous étiez accompagnée pour faire toutes ces démarches ?
Non. En fait, ma généticienne, donc la généticienne de la maternité qui nous a annoncé la trisomie 21 de Nathanaël, nous a beaucoup aidés. Elle nous a donné beaucoup de renseignements, beaucoup de soutien moral, parce qu'elle est très humaine. Beaucoup d'infos sur les soins, etc. Mais après, son rôle, il s'arrête là. Elle peut pas nous accompagner, nous tenir la main pour faire toutes les démarches. Et comme je te disais, le centre trisomie 21 Rouen était fermé. Donc j'ai eu beaucoup de mal à les joindre. J'avais une adresse mail qui n'était pas la bonne. J'ai laissé des messages, mais j'avais personne qui me rappelait. Bon, après, ça, je te parle de ça, c'était les toutes premières semaines, hein, mais n'empêche que ça rajoute un stress.
Et à partir de combien de temps vous avez réalisé ce qui vous arrivait ?
J'en sais rien du tout. Je pense que je l'ai réalisé très vite, mais l'accepter. Je l'ai accepté très vite aussi, je vais pas dire le contraire, parce que c'est particulier. Mon fils, tout comme le premier, je te disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'on puisse aimer autant, mais je ne pense pas que c'était possible deux fois, tu vois. Mmh. Je pense que c'est possible à l'infini, mais quand Nathanaël est né, autant j'ai vu sa trisomie tout de suite sur lui, autant je ne l'ai pas repoussé. Mmh. Je ne juge pas ceux qui le font, parce que j'ai bien conscience que c'est compliqué pour l'avoir vécu. Mais je suis tombée complètement amoureuse de mon fils. Et je suis toujours complètement amoureuse de lui, tout comme de son grand frère. Donc... En fait, je l'ai accepté assez rapidement. La situation, j'ai eu du mal à l'accepter. Mmh. C'est-à-dire toutes les démarches à faire. Aussi me dire qu'est-ce qui va advenir. Est-ce qu'il va avoir des difficultés dans la vie ? Il y en aura. On ne va pas se voiler la face. Est-ce qu'il va être accepté ? Est-ce que les gens vont se moquer de lui ? Est-ce que il y a tout un tas de questions. On ne dort pas pendant plusieurs nuits. On se les pose encore. Moins. Parce qu'on a appris à vivre avec. Mais oui, on l'accepte et en même temps, on se dit la vie serait plus simple si la société était à même de les accepter tels qu'ils sont et si on n'en faisait pas tout un plat. Parce que finalement, je trouve qu'on en fait beaucoup.
Parce que la trisomie 21, c'est quoi finalement ?
La trisomie 21, c'est un chromosome 21 en plus. Ça a plein de répercussions. Nathanaël, il a une trisomie 21 libre et homogène. Ça veut dire qu'en gros, son chromosome 21 est présent sur tous ses gènes, ou en tout cas la majorité de ses gènes. Donc on a fait son karyotype. Évidemment, ils ne regardent pas chaque gène, mais ils en regardent un certain nombre. Et de là, ils en déduisent si c'est libre et homogène ou pas. Donc lui, il en a une libre et homogène. Il n'a pas de pathologie associée. Il pourrait avoir une pathologie cardiaque, il n'en a pas. Il est un peu plus fragile que les autres parce que la trisomie 21, ça génère une déficience immunitaire. Donc, il chope un peu tout ce qui passe. D'accord. Il a un retard mental, retard moteur et des petits soucis de santé, mais que n'importe quel enfant, finalement, pourrait avoir. Donc, c'est pas si grave que ça, finalement, quand on regarde. Il y a des maladies, des mamans qui accouchent d'enfants avec des pathologies bien plus graves, bien plus lourdes. La trisomie 21 en fait tout un plat parce que je pense que le handicap mental fait peur. Parce que dès qu'on parle de mental, on associe tout un tas de choses. Et puis parce qu'on est dans une société où il faut toujours être au top partout. Mmh. Et qu'évidemment, avec un handicap mental, quelqu'un qui a un petit peu de retard, c'est mal vu. Alors que finalement, les porteurs de trisomie 21 aujourd'hui vivent très bien. La majorité sont autonomes, ils travaillent, ils ont des appartements, ils vivent seuls. Il y en a même qui sont en couple. On a vu récemment sur les réseaux sociaux, il y en a même qui se marient. Donc, tout est possible. Après, c'est juste, il faut leur faire confiance. Et c'est ce qu'on essaie vraiment de faire avec Nathanaël. c'est de le pousser vraiment, sans non plus en faire une bête de concours, c'est-à-dire le forcer à faire, parce que la surstimulation, c'est pas forcément la meilleure chose non plus. Mais on le stimule et on lui fait confiance et on lui montre qu'on lui fait confiance, et de là, il se développe très bien. Alors, c'est sûr que Nathanaël a 3 ans, il marche pas. Après, c'est Nathanaël, c'est son évolution à lui. Mais du coup, on a rencontré plein d'autres familles avec des enfants porteurs de trisomie 21. Et certains ont marché à l'âge où un enfant dit normal marche. Donc ça ne veut strictement rien dire. Certes, s'ils ont des problématiques de tonicité comme Nathanaël, bon, ils marchent plus tard. Voilà. Mais finalement, c'est comme un autre enfant et ils vont chacun à leur rythme, quoi. Et en plus, Nathanaël, il cumule avec un problème d'hormones de croissance. Ce qui fait que ça joue aussi sur sa tonicité, sur sa taille, son poids. Et ça, on a perdu un an à faire des recherches pour savoir ce qu'il avait en plus de la trisomie 21. Et finalement, il s'avère que c'est un déficit en hormones de croissance. Donc il est traité depuis un an, mais du coup, il a perdu un an. Donc l'un dans l'autre, il ne marche pas. Mais si on l'avait détecté plus tôt, peut-être qu'il marcherait déjà. Donc on ne peut pas savoir.
Et comment ça se passe avec son frère et sa sœur? Comment vous avez abordé le sujet avec eux et comment eux vivent la trisomie 21?
Aborder le sujet, ça a été très dur. C'est une question qu'on s'est beaucoup posée, autant avec Léane qui était un petit peu plus grande qu'avec Antonin, parce qu'ils étaient plus grands mais quand même tout petits quand Nathanaël est né. Donc Antonin, on lui a pas dit tout de suite, mais finalement il vit avec son frère tout le temps. Donc il voit bien qu'il y a des choses. Il nous le dit souvent, on lui en a parlé. Enfin, maintenant, il est un peu plus grand, donc depuis, on lui en a beaucoup parlé. Il sait qu'il a une trisomie 21. Il sait aussi qu'on est une association, il parle beaucoup de l'association. Il voit que son frère a beaucoup de rendez-vous médicaux, qu'il voit beaucoup de médecins, donc qu'il a des pathologies, enfin, en tout cas, des soins à avoir. On lui a toujours expliqué que son frère était différent, mais que c'était différent, et que pour autant... Il était différent, mais comme tout le monde, puisque tout le monde est finalement différent et que la différence était une richesse. Donc il l'a intégré. C'est un peu difficile pour lui, je pense, parfois, de se dire pourquoi il marche pas, par exemple. Ça, je sais que ça le travaille beaucoup, donc on essaye de lui expliquer, mais à 5 ans, c'est quand même un peu compliqué. Et je pense qu'il veut tellement pousser son frère à faire des belles choses et à avancer que... Il en a tendance à vouloir trop qu'il marche, qu'il fasse des choses, qu'il joue avec lui sur certaines choses. Donc il a tendance, je sais pas, en magasin la dernière fois, il voit un petit garçon qui devait être plus jeune que Nathanaël en disant « Regarde Nathanaël, le petit garçon, là il marche, tu devrais faire pareil. » Donc c'est très mignon, mais en même temps je me dis que ouais, il se rend compte que, voilà, que son frère a du retard. Il le vit plutôt bien pour l'instant, même s'il nous en veut un peu de passer beaucoup de temps avec Nathanaël. Est-ce que ce serait différent avec un autre enfant? Je sais pas. Parce que la jalousie, elle est là. On sait qu'entre frères et sœurs, la jalousie, elle est très présente. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à s'occuper de Nathanaël. Donc, voilà. Je sais qu'on essaie de passer un maximum de temps avec Antonin. Léane, c'est différent parce que quand elle est là, on profite à 100% d'elle, vu qu'elle n'est pas là tout le temps. Je pense pas qu'elle le ressente beaucoup. Mais elle le sait, qu'il a une trisomie 21, et sait qu'il est différent aussi. On a acheté pas mal de bouquins, de livres, où on leur montre la différence, justement.
Il y en a pour les enfants,
ouais,
pour expliquer.
Ouais, il y en a plein. Il y en a plus qu'on pense. Nous, on en a découvert plein. On en a sur notre site. Il y a Florette Coquinette, il y a... qui rentre à l'école, mais il y en a tout un tas d'autres pour les tout-petits. Il y a Anatole et sa petite casserole. Il y a une histoire de petit lapin différent aussi. Avec un petit frère, justement, on l'a lu à Antonin assez rapidement. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour ça, et je trouve ça bien, même si on en parle encore trop peu, à mon goût. Mais oui, je trouve qu'ils vivent plutôt bien pour l'instant, mais ils sont encore petits, donc c'est difficile à dire.
Oui.
Je sais pas s'ils se rendent compte vraiment. Ils savent qu'il est différent. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce que ça implique derrière? Je sais pas. Après, Antonin... nous voit beaucoup avec des personnes porteuses de trisomie de tout âge. Donc il les côtoie déjà. Donc je me dis, le fait de les côtoyer, il est déjà prêt aussi quelque part, et il sait ce que c'est la différence. Et pour lui, ça sera certainement très naturel plus tard, parce qu'il aura toujours vécu avec Nathanaël, mais aussi toujours vécu avec des gens différents tout autour.
Et au niveau du travail, donc c'est Alexandre qui a arrêté de travailler pour être ce qu'on appelle aidant.
Oui, c'est ça. Alors ça, c'est l'autre aspect des choses qui est moins cool. C'est que Nathanaël, du coup, a des soins, pas mal de rendez-vous médicaux. Il a des séances d'orthophonie, de psychomotricité, de kiné.
Chaque semaine ?
Chaque semaine. Et c'était pas possible de cumuler ça avec un travail. En tout cas, moi, au départ, j'avais pris un congé parental, donc j'étais à temps partiel. Et puis, Alexandre, à l'époque, quand j'ai accouché de Nathanaël, avait un poste à prendre, mais il travaillait pas, donc il avait trouvé un emploi, sauf que c'était loin, et il y avait cette fameuse période d'essai, donc c'était très risqué. Du fait qu'on a appris la crise 2021, il fallait faire un choix. Le choix le plus judicieux, c'était de ne pas prendre de risques et de pouvoir subvenir financièrement à notre famille. Donc il a fait ce choix de rester à la maison pour s'occuper de Nathanaël et d'être ce qu'on appelle aidant familial. Alors c'est un joli terme pour dire qu'en gros on s'occupe de quelqu'un autour de nous. Ça peut être un parent, un enfant, un frère, une sœur, peu importe. Mais ça n'est qu'un terme puisque finalement ça n'est pas vraiment reconnu par la société. Ça commence à l'être, on en parle de plus en plus, mais il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de rémunération, pas de reconnaissance. Le seul truc qu'il a, c'est qu'il cotise à la retraite. Voilà. Rien du tout. Donc non, pas de...
Aucune aide financière.
Aucune aide financière. La seule aide qu'on a financière, c'est la MDPH qui verse une allocation d'enfants handicapés qui est de 131 € par mois et auxquels peuvent s'ajouter des compléments si effectivement on réduit notre activité. Et donc on a des compléments qui vont de 1 à 5 et en fonction du complément et des ressources, on peut avoir une majoration. Donc nous, on en a une petite. Là, on a refait le dossier parce qu'à la base, on pensait que Nathanaël irait à la crèche encore cette année et qu'Alex pourrait trouver un travail, sauf qu'on n'a pas eu notre dérogation pour la crèche. Et du coup, Nathanaël est tout le temps à la maison, sauf que comme il a 3 ans et que maintenant l'école est obligatoire, enfin l'instruction est obligatoire, on fait l'instruction à la maison et donc c'est Alexandre qui s'y colle. Du coup, il ne travaille toujours pas.
D'accord.
Comme moi j'avais un bon boulot, j'y suis depuis 13 ans, donc j'ai des avantages d'ancienneté, de rémunération, etc. C'était ridicule que ce soit l'inverse, même si c'est pas facile pour tous les deux. C'est pas facile parce que moi, en tant que maman, je voudrais être à la maison avec mes enfants. Même si c'est pas forcément la maman qui doit rester, on est bien d'accord, hein, mais c'est que moi j'ai une petite frustration de ne pas pouvoir être là pour tous les examens médicaux, tous les rendez-vous, etc. Et Alex, lui, à l'inverse, à force d'être à la maison, il aimerait bien aussi faire autre chose de sa vie, ce que je peux concevoir, parce que c'est pas forcément marrant.
Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça dans la société, soit justement
par rapport
toi
à...
qui travailles?
Ouais, c'est arrivé, oui, bah oui, il a postulé, il a été contacté par un chasseur de tête, donc, parce que Alexandre a un beau parcours professionnel aussi, donc il pourrait très bien travailler, c'est pas le problème. Et donc il lui expliquait la problématique de Nathanaël, du fait qu'il pouvait travailler mais que ce serait bien en télétravail et à temps partiel parce qu'il y a des rendez-vous, etc. Donc le type au départ lui disait « Ah bah oui, très bien, on va essayer de faire ça, j'ai un poste potentiellement, etc. » Puis au final, c'est arrivé que plusieurs jours après, il le recontacte en disant « Finalement, le temps partiel, télétravail, ça peut être possible, il faudrait que vous soyez tant de jours par semaine à Lyon. » Donc on habite à Rouen. Donc, il disait, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est pas possible tant que je suis pas assurée d'avoir un job qui rémunère. On peut pas tout lâcher, prendre des risques. Enfin, c'est pas possible. Et le type lui a quand même dit, mais pourquoi c'est pas votre femme qui reste à la maison?
Comme si c'était naturel.
Voilà. Et donc, du coup, Alexandre avait répondu assez sèchement et on avait même fait un post après en disant, mais depuis quand? C'est une obligation que ce soit maman qui reste à la maison et pas papa. Et pourquoi elle devrait arrêter sa carrière alors qu'elle a un job, etc. Après, c'est notre choix parce que financièrement, on ne peut pas faire autrement. Et puis parce que aussi, ce serait ridicule de tout plaquer alors que j'ai un bon travail. Mais c'est quand même fou cette mentalité de se dire « Mais madame a qu'à rester à la maison. » Mais oui, madame n'a qu'à être maman au foyer.
Et alors, côté scolarité, comment ça se passe pour Nathanaël ?
Ben, pour l'instant, ça se passe pas, parce que Nathanaël ne va pas à l'école.
Il était à la crèche, juste avant.
Alors, il était à la crèche quand nous habituons avant, puisqu'on a déménagé, là, il y a un an. Il était dans une crèche municipale. La même crèche que son petit frère, son grand frère, pardon. Donc, ils étaient dans la même crèche au tout début. Après, Antonin est rentré à l'école en maternelle. Et Nathanaël est resté à la crèche.
Ça n'avait pas posé de soucis du
aucun.
Tout,
rien. Aucun souci. On a juste une remarque quand Nathanaël est né, parce qu'il avait déjà sa place, on avait fait les démarches. Et quand il est né, on a appelé la mairie pour les prévenir. Et donc là, on nous a dit, vous ne pouviez pas nous le dire avant. Si on l'avait su, on l'aurait dit, mais bon, c'est pas grave. Non, ça a posé aucun problème parce que la crèche municipale dans laquelle était Antonin était une crèche très bienveillante avec une directrice au top. Il y a eu plusieurs directrices qui se sont succédées mais qui étaient très bien. Et la dernière en date était une ancienne directrice de Camps. Donc très au fait du handicap et ils adoraient Nathanaël. Tout le personnel adorait Nathanaël. C'est pour ça aussi qu'on pensait avoir une dérogation qu'on n'en avons pas eue. Parce qu'eux étaient prêts à garder Nathanaël à la crèche. Ils auraient même souhaité le garder. Simplement, la municipalité de Rouen nous l'a refusé au motif qu'on avait déménagé, ce qui n'est pas faux, et qu'on n'avait qu'à trouver une autre solution, sauf qu'on a eu le refus en août. Tant te dire qu'en août, pour trouver une autre solution, surtout en campagne, c'est impossible.
Ah, puisque maintenant, vous êtes en campagne rouennaise.
Voilà, on est en campagne rouennaise, il n'y a pas de crèche municipale, on est dans une toute petite commune. Les crèches dans les villes alentours, évidemment, étaient déjà prises complètement, enfin, il n'y a plus de place. On est sur des listes d'attente, mais on n'espère pas trop. Et puis les nounous, bah, encore une fois, c'était compliqué de prendre un contrat avec quelqu'un sans savoir si finalement on pourrait aller jusqu'au bout du contrat, puisque Alex n'est plus indemnisé par Pôle emploi depuis bien longtemps, et que tant qu'il ne trouve pas un travail, on ne peut pas payer une nounou, c'est très cher, hein, donc on ne peut pas payer une nounou avec un seul salaire. Et même s'il trouve un travail, il y a toujours cette fameuse période d'essai. Donc il avait trouvé un CDD, il avait été touché pour un CDD qui était hyper intéressant. Simplement, ça restait un CDD et personne ne nous fait des contrats temporaires. Donc pour l'instant, on n'a pas de solution.
D'accord.
Et les autres crèches, c'est très cher. Donc les crèches hors crèche municipale, les tarifs ne sont pas les mêmes, d'autant que Nathanaël a 3 ans. Donc à 3 ans, le tarif n'est plus le même dans la mesure où les aides ne sont plus les mêmes par la CAF. Nous, on dépend de la mutualité sociale agricole, mais c'est pareil, les aides sont dégressives, même quand l'enfant est en situation de handicap. Donc c'est compliqué.
Il va aller à la maternelle ?
J'espère. On fait tout pour qu'il y aille l'année prochaine. On va faire les démarches, là, bientôt. Faut qu'on les fasse dès maintenant, pour septembre de l'année prochaine. Parce qu'il faut demander une AVS, maintenant AESH. Il faut.
Donc quelqu'un qui s'occupe de lui.
Voilà, il faut qu'on fasse toutes les démarches vis-à-vis de la MDPH, vis-à-vis de l'école, avec des plans, voir combien de temps il va y aller, s'il va toute la journée, pas toute la journée, toute la semaine ou pas. C'est assez compliqué. Je trouve que c'est. Mais beaucoup de parents d'enfants en situation de handicap, quel que soit le handicap, ils sont confrontés. Je trouve ça très très compliqué de faire ces dossiers-là, parce que déjà, il faut s'y prendre très longtemps avant, ce qui fait que là, on va s'y prendre maintenant. Nathanaël ne marche pas encore. Je ne sais pas s'il marchera l'année prochaine. Normalement, oui, parce qu'il est en bonne voie. Mais je ne sais pas comment il marchera. Je ne sais pas s'il oralisera un peu plus, c'est-à-dire est-ce qu'il parlera mieux ou pas. Je ne sais pas du tout s'il sera propre ou pas. Donc c'est hyper dur parce qu'on doit se projeter dans l'avenir avec des souhaits quant à l'aide potentielle qu'il peut avoir sans savoir finalement s'il aura besoin de cette aide-là en septembre prochain. C'est quelque chose que je comprends pas très bien dans notre système actuel. Voilà, il faut qu'on demande l'autorisation du directeur de l'école alors que l'école est obligatoire. Ceci ne veut pas l'accueillir, c'est très compliqué. Il y a tout un truc, tout un monde qui m'échappe, auquel je vais bientôt être confrontée, mais c'est vrai que ça me fait un peu peur. J'avoue que je ne suis pas très rassurée de devoir faire toutes ces démarches et j'espère que ça va bien se passer. Parce que je suis sûre qu'il sera très bien à l'école. Il était très bien à la crèche, il s'entendait très bien avec les autres enfants. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal à l'école. Maintenant, c'est tout l'à côté, toutes les démarches qu'il faut faire qui sont compliquées et stressantes.
Est-ce que c'est ça qui vous a motivé à créer l'association Chromosomes d'amour en plus ?
Ça et tout le reste, oui.
Comment est venue
l'idée de l'association, elle est venue très vite quand j'ai... Pas quand j'ai accouché quand même, mais dans les semaines qui sont venues. De par ce que je te disais tout à l'heure, le fait que je me suis sentie un peu démunie en rentrant à la maison parce qu'on appelait, c'était fermé, les adresses mail n'étaient pas les bonnes, sur internet t'as des infos, mais t'as tout, comme pour n'importe quel sujet. T'as 10 000 avis différents. Et puis j'ai vite créé la page. Alors la page Facebook, je l'ai vite créée sans que l'idée d'association soit là tout de suite. Je me disais peut-être que dans l'avenir je ferais quelque chose, mais... Et j'ai eu plein de témoignages, mais alors énormément de témoignages de maman. Soit qui était enceinte et qui apprenait la trisomie 21 de leur enfant et qui avait besoin d'échanger, de savoir à quoi elle se confrontait si elle décidait de garder l'enfant. Nathalie était tout petit, hein, donc même moi, j'étais encore pleine de questions. Soit des mamans qui me disaient, mais moi j'ai un enfant porteur de trisomie 21, il me manque ça, est-ce que vous en parlez très naturellement ? Nous, c'est encore difficile, on a besoin d'en parler, mais on ne sait pas vers qui se tourner. Des pays maghrébins, il y a beaucoup, beaucoup de parents de pays maghrébins qui ne sont pas aidés du tout. Donc c'est pareil, beaucoup de témoignages. Voilà, j'ai reçu tellement de demandes qu'avec Alexandre, on s'est dit, mais il y a quelque chose, quoi. Il faut aider toutes ces personnes. Il faut aussi faire changer le regard de la trisomie 21, parce qu'en fait, il y en a beaucoup encore qui les cachent alors qu'il n'y a pas lieu. Que ça se fasse dans l'ancien temps, parce que pour des raisons X ou Y, c'était mal vu. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu que ces enfants ou ces adultes soient cachés, à mon sens. Pour moi, c'est pas un tabou, le handicap, bien au contraire. Et voilà, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose, et donc on a créé l'association. Voilà.
Et alors, elle fait quoi, cette association ?
Alors, on fait plein de choses. On renseigne beaucoup de parents. Donc ça, c'est vraiment tout le côté qui n'est pas visible pour la plupart des gens, parce que ça se passe en off. C'est beaucoup de messages. Je passe beaucoup de temps sur mon téléphone à répondre à des messages de maman, de papa. Alex aussi, du coup, rassure aussi beaucoup les papas. Après, il y a tout le côté, on fait des rencontres. Donc pour ceux qui sont dans le coin ou pas très loin, l'avantage c'est qu'on n'est pas loin de Paris, donc on peut toucher quand même beaucoup de monde. On fait des rencontres, parce que parfois ils ont juste besoin de voir, quand elles sont enceintes notamment, à quoi ça ressemble un enfant porteur de trisomie 21, comment c'est une famille avec un enfant porteur de trisomie 21. Donc on en a déjà accueilli à la maison, ou d'autres tout simplement quand ils sont nés, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. On fait des actions aussi pour les journées mondiales, les journées nationales, etc. On fait beaucoup de partage et d'informations. Voilà. Bon, c'est ça. C'est beaucoup d'informations sur la trisomie 21 pour que les gens sachent de quoi on parle. Parce qu'en fait, on se rend compte que la plupart des discriminations ou tout simplement des préjugés partent d'une mauvaise information, d'une croyance. Et ça, on fait tout pour lutter contre. Donc c'est aussi pour ça qu'on expose beaucoup Nathanaël. C'est qu'on veut montrer que c'est un petit garçon. Alors certes, il y a une trisomie 21, mais avant tout, c'est un petit garçon comme les autres. Il est mignon, il fait plein de choses, tout comme n'importe quel enfant. Il joue avec son frère comme n'importe quel enfant, et il est colérique comme n'importe quel enfant. Il fait des caprices, voilà, comme tous les enfants. Il a les mêmes, c'est la même chose. Simplement, avec un peu de retard, il va à son rythme. Quoique, pour les caprices, je suis pas sûre, mais... En fait, cognitivement, Nathanaël n'a pas trop de retard. Donc, c'est vrai que là-dessus, on est chanceux. Il évolue très bien à ce niveau-là. On sait qu'il comprend tout depuis très longtemps. Je pense qu'il sait qu'il est différent, mais qu'il s'en fiche un peu pour l'instant. Mais pour l'instant, ça ne le touche pas trop. Donc, on informe beaucoup. On a créé l'Extra Box. Donc l'extra box, c'est quoi ? C'est la boîte rose, donc les boîtes qu'on a en maternité, dans laquelle on a mis un guide pour les parents, parce que nous, c'est ce qui nous a vraiment manqué. En fait, moi, quand j'ai accouché de Nathanaël, j'ai eu ma jolie boîte rose. Et là, j'ai feuilleté le magazine et je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien qui me concerne dedans. On ne parle pas de handicap, on ne parle pas de maladie. On parle d'un bébé lambda où tout se passe bien, etc. On parle pas des soins, on parle pas de MDPH, de handicap, etc. Et je me suis dit, il faut quelque chose pour les parents qui l'apprennent. Donc il faut un guide avec des coordonnées de pros, d'associations. Il y en a d'autres, mais il y en a plein d'autres sur tout le territoire. voilà, des liens, vraiment des choses pour les aider, puis dédramatiser. Je voulais dédramatiser le moment parce que pour l'avoir vécu, c'est pas simple. Et donc, je voulais des petits cadeaux aussi, hein, tout comme on a dans la boîte rose, des bons de réduction, des cadeaux, etc. Donc, l'extra box, c'est ça. C'est un guide et puis des petits cadeaux pour les parents qui apprennent la trisomie 21 de leur enfant à la maternité.
Et c'est distribué dans les maternités ?
Ça va être distribué dans les maternités. Donc elle est prête, il faut juste qu'on édite le guide. Donc c'est aussi pour ça qu'on... Voilà, l'association, elle a lieu d'être. Et puis on a fait une exposition photo qui s'appelle Changeons de regard, grâce à un super photographe rouennais qui est Emmanuel Branchet, qui nous a permis de mettre en lumière des personnes porteuses de trisomie 21, mais de tout âge. C'était un souhait que j'avais. Parce qu'on me dit souvent, oui, mais Nathanaël, il est mignon parce qu'il est petit. Mmh. Qu'est-ce que ça va devenir quand il sera plus grand ?
On te dit ça ?
Ouais, on m'a souvent dit ça. Ouais. Et je me dis, mais pourquoi ? Enfin,
c'est violent.
Voilà, c'est violent. Mmh. C'est tout de suite, on se dit, ah bah oui, il est mignon, mais c'est normal, c'est un enfant. Vous penserez peut-être pas la même chose plus tard. Mais si, je penserai toujours la même chose parce que c'est mon fils. Mais voilà, je voulais qu'on les voit, en fait. Et d'ailleurs, certains modèles nous ont remerciés parce que quand ils se sont vus exposés, on se dit enfin on nous voit.
C'était exposé.
Elle a été exposée sur les grilles de l'hôtel du département de Rouen en extérieur. Elle a été exposée au Havre pour la semaine du handicap, dans les locaux de la mairie du Havre. Elle a été exposée à Dieppe sur le parvis de l'hôtel de ville, pareil en extérieur. Et là actuellement elle est dans un centre pour personnes handicapées qui s'appelle le Château Blanc à Arc-la-Bataille, qui est pas très loin d'ici, donc à côté de Dieppe aussi. Et on fait en sorte qu'elle soit itinérante, donc elle va voyager un petit peu partout dans la France. Donc on est en train de voir avec plusieurs villes de France qui veulent accueillir cette exposition, parce qu'on a eu beaucoup de retours positifs et c'est les gens qui viennent à nous pour justement l'accueillir. Donc on trouve ça génial. Et enfin, on voit des personnes porteuses de trisomie 21. Alors on en voit de plus en plus, hein, heureusement, mais là c'est de tout âge. Et ça fait chaud au cœur parce que enfin, moi je trouve que les portraits sont magnifiques.
Et de quoi aurait besoin l'association aujourd'hui ?
De fonds, évidemment, comme n'importe quelle association, ça c'est évident, de relais, parce que ne serait-ce que d'en parler, pour nous c'est déjà une victoire en fait, ne serait-ce que d'en parler pour que les gens qui seront confrontés ne restent pas seuls, parce qu'il y en a hein, qui m'ont dit « Ah mais je connaissais pas, mais je suis restée pendant des mois avec mes questions, alors qu'on aurait pu partager », voilà. Parfois les parents ont juste besoin de parler, après on n'a plus de nouvelles, mais voilà, ils ont juste besoin à un moment donné de parler, d'échanger, de dire, voilà, avec des mots que nous on a pu avoir quand Nathanaël est né, de se dire mais qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce qu'on va faire, voilà, juste pouvoir poser des questions sans être jugé, ça déjà c'est génial. Donc ouais, en parler, avoir des fonds et puis continuer à relayer les informations positives et pas que le négatif, parce que bien entendu il n'y a pas que du négatif. Je ne vais pas dire que c'est tout rose, c'est une organisation, une autre organisation, c'est des soucis, mais qui n'en a pas avec ses enfants finalement, j'ai envie de dire, parce que oui, Nathanaël est souvent malade, mais en même temps Antonin l'était aussi alors qu'il n'a pas de trisomie 21. Donc je me dis, je m'inquiète beaucoup, Alexandre s'inquiète aussi, mais on s'inquiète tous pour nos enfants et on fait pas des enfants pour qu'ils soient parfaits, en bonne santé. Voilà, c'est pas des statues, on peut pas les protéger de tout. Donc finalement, je me dis, c'est pas différent d'une autre maman.
Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
Voilà, qu'est-ce que la maternité a changé pour moi ? Bah, plein de choses. Je me suis... Tout d'abord, je me suis révélée alors plus à Nathanaël qu'à Antonin, parce que j'avais pas les mêmes problématiques et comme je te disais tout à l'heure, je suis d'un naturel assez timide et avec l'association et la trisomie 21 de Nathanaël, j'ai tellement voulu en parler parce que je ressentais le besoin, tout simplement, parce que c'était un choc, j'avais besoin d'en parler. J'ai tellement envie de lutter contre les préjugés, j'ai tellement envie de montrer que la trisomie 21, c'est pas si grave et que ça mérite pas que les enfants soient cachés, ou même les adultes, que finalement j'ai pris sur moi et je me suis... finalement, c'est un peu le papillon, la chenille qui s'est transformée en papillon, comme on me dit souvent, parce que même ma famille me dit « Mais toi qui parlais pas, qui étais si timide, et maintenant tu t'exposes sur les réseaux, t'es devenue blogueuse ». Voilà, donc la maternité, ça a changé ça en moi, mais c'est plus la venue de Nathanaël. Sinon, ce que ça a changé, bah, c'est que je m'inquiète 10 fois plus qu'avant. Ne serait-ce que pour Antonin, depuis qu'il est tout petit, parce que comme je te disais, quand il est né, il était tout frêle et on a eu pas mal de soucis à sa naissance à cause de ça. Il grossissait pas, donc c'était très... Voilà, je me rends compte qu'on s'inquiète beaucoup quand on est maman, chose que je savais pas avant. Et puis, bah, on vit pour d'autres que soi. Et ça permet de relativiser plein de choses, d'être maman.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman rouennaise ?
Une maman de province. On est à côté de Paris, donc on a plein d'avantages, parce que finalement, ça va vite, ce qui permet aussi de développer pas mal le blog et d'avoir pas mal de liens. Et puis surtout, c'est la ville à la campagne.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré ?
C'est chez moi. Maintenant, c'est vraiment ici, parce qu'on a un grand jardin et... une grande maison où les enfants peuvent s'éclater, donc ça c'est top. Avant, je vais être honnête, je sortais pas beaucoup avec les enfants, sauf pour aller à Dieppe, chez ma mère, etc. Mais maintenant c'est vraiment ici, ouais.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors rien que pour moi, j'aimerais me reconvertir professionnellement. Ça c'est un souhait que j'ai depuis quelques temps. Prendre un peu plus soin de moi et faire du sport un peu plus. Et pour la famille, j'ai pas vraiment de projet. On est bien comme on est. Tout ce que je veux, c'est que mes enfants s'épanouissent le mieux possible. Je t'aurais dit il y a quelques temps avoir une maison, ça y est, c'est fait depuis peu. Donc voilà, finir les travaux de notre maison pour que les enfants aient une maison à leur image, parce que c'est pas terminé, elle est un petit peu... C'est une maison ancienne, donc il faut qu'on la remette à notre goût, on le fait petit à petit. Voilà, on prend notre temps.
Merci beaucoup, Rachel.
Merci à toi.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Pour échanger sur le sujet abordé avec Rachel, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 40 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À mercredi prochain pour un nouvel épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.